Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Touchdown Actu, nouvelle émission consacrée à la draft et consacrée au Combine 2023. Vous avez peut-être déjà entendu l'émission consacrée aux prospects défensifs qui ont marqué le plus de points ou qui en ont sans doute perdu. Si ce n'est pas le cas, vous avez bien entendu la possibilité de le retrouver sur le site ou sur les meilleures plateformes de streaming et de téléchargement. On va s'intéresser aujourd'hui aux prospects offensifs qui ont crevé l'écran dans le bon ou dans le mauvais sens à l'occasion de ce week-end du côté d'Indianapolis. On va donc savoir qui ont marqué des points, donc comme je disais, sur les positions de quarterback, running back, receveur, tight end, joueurs de ligne offensive, ceux qui ont clôturé en tout cas les hostilités du côté d'Indy. Pour en parler, il est à côté de moi de nouveau en compagnie de son petit verre de verveine, monsieur Victor Roulier est avec nous. Salut Victor.
Bonjour à tous, toujours vivant, toujours debout.
Tout à fait. En t'entendant avec un petit écho au tout début. Mais là, là a priori, voilà. C'est juste au début de tes phrases. De temps en temps, on t'entend un peu de loin.
Extrêmement surprenant.
Mais là, en tout cas, on t'entendait parfaitement bien. Donc voilà, ravi de te retrouver en tout cas pour cette nouvelle émission qui, je le sais, sera animée parce que voilà, même si on l'a dit lors du dernier podcast, l'attaque sera peut-être moins à l'honneur, en tout cas, peut-être moins vantée que la défense à l'occasion de cette QV. Maintenant, il y a toujours des cas très, très atypiques, très polarisants. Et on ne va pas se gêner pour en parler dans cette émission. À commencer notamment par les quarterbacks, M. Roulier. Alors, il y avait cette interrogation. Aujourd'hui, on a donc 4-5 noms hein, qui sortent du lot. 4 notamment au premier tour. Si on part du principe qu'Hendon Hooker, qui ne participait pas d'ailleurs aux ateliers, parce que je crois toujours, il s'en remet toujours de sa blessure récente, contracté en tout cas mi-fin novembre. Donc il s'en remet toujours un petit peu. Et je crois que ça a été confirmé qu'il serait disponible pour le début de la saison régulière.
Oui, c'est ça. Mais bon, après, voilà, ça veut dire ne pas avoir fait l'intégralité des camps.
Voilà.
Ne pas avoir fait après-saison. Enfin, un peu compliqué.
Voilà, problématique un peu à la Tua Tagovailoa, notamment lors de sa première année du côté de Miami. On sait
sauf
qu'il va falloir.
Tagovailoa n'avait pas 25 ans.
Oui. Ah oui, alors, mais non, mais attention, préparez-vous. Oui, mais bon, il avait un corps qui était quand même un peu, il avait un corps de 30 ans déjà, Tagovailoa, quand même. Je pense qu'on peut le dire. Mais bon, ça c'est pas le sujet. En l'occurrence, Hendon Hooker ne participait pas donc aux différents ateliers. Il était principalement là du côté d'Indianapolis pour rencontrer les équipes. C'était également le cas pour Bryce Young, hein, le joueur, le principal quarterback à l'heure actuelle de cette QV, celui qui est le plus côté, celui qui est annoncé par beaucoup comme le premier choix de la draft et la source d'éventuels échanges d'équipes auprès des Chicago Bears pour récupérer ce fameux premier choix. Alors pour Bryce Young, c'était des préférences personnelles, on va dire. On a préféré se concentrer principalement sur le pro day, hein, même pas de 40 yards ou ce genre de choses, alors que je pense que la mobilité aura été assez scrutée de près quand même malgré tout pour le quarterback de Bama. Alors, l'idée, c'est pas de jouer l'agent Bryce Young, mais est-ce que tu comprends cette décision de sa part?
Ben écoute, je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs qui, enfin, ou en tout cas moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs qui renoncent peu à peu à ces ateliers. Écoute, quand t'as déjà une vraie grosse cote et globalement, tu peux pas vraiment aller plus haut que ce que tu fais actuellement, ça me choque pas de se dire, je préfère être Voilà, donc dans un environnement que je connais, où je vais être assuré avec mes entraîneurs, etc., au Pro D, je vais être plus dans des proportions pour performer que dans ce rassemblement à Indianapolis avec des coachs qui sont pas les miens et tout. Bon, voilà, ça me choque pas, non.
Très bien. Bon, en tout cas, ça nous a permis de voir notamment trois quarterbacks de près, notamment CJ Stroud d'Ohio State, Will Levis de Kentucky et Anthony Richardson de Florida. Alors, on va déjà s'intéresser. Alors, on va s'intéresser principalement donc à Levis et à Richardson dans cette émission parce que CJ Stroud, je parlais de Bryce Young qui était annoncé comme un numéro 1. A priori, CJ Stroud a quand même la grosse étiquette de numéro 2 de la draft depuis le début. Même s'il a marqué quand même quelques points à l'occasion de ce combat, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? On a l'impression qu'il y a toujours quelques petits déficits. Je pense à quelques lancers peut-être un peu, comment dire, un peu suralimentés. Mais en l'occurrence, voilà, pour ceux qui voulaient avoir être assurés, on va dire, d'un point de vue timing et placement, je pense que du côté de CJ Stroud, il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là.
Il a été très bon. Il a été très bon dans tous les sens du terme. J'ai honnêtement aucun problème avec lui. Moi, je dois avouer que c'est un joueur avec lequel j'ai été dur, qui a quand même fait son meilleur match en carrière au meilleur moment, puisqu'il l'a fait en demi-finale nationale. Et ouais, clairement, non, juste bravo, en fait. Parce que il était bien en place. Bon équilibre, bon lancer, non, tout était très bien.
Tout à fait. On en vient du coup à Will Levis et Anthony Richardson. Alors du coup, je te rejoins, globalement, très bonne copie de la part de CJ Stroud. Et à mon sens, copie très intéressante aussi pour les deux autres personnes citées. Alors déjà, on est obligé de parler, comme on dirait outre-Atlantique, de l'éléphant dans la pièce. Parle-nous de cette prestation d'Anthony Richardson, parce qu'on sait que forcément... Nous, c'est vrai qu'on est un peu, qu'on en fait un peu un foin toujours du 40 yards en disant, ah là, vous avez vu, il court vite en ligne droite, etc., etc. On se doute que ce sera pas forcément les mêmes conditions en NFL, hein. C'est quand même rare les défenses qui s'ouvrent comme la mer rouge. Anthony Richardson, quand même, on ne doutait pas des qualités physiques et athlétiques du bonhomme. Maintenant, j'en parlais lors du précédent podcast. Quand on est à 240 pounds, alors je crois que ça va faire à peu près 110, 115 kilos, je ne vais pas me tromper. 4,44 pardon, sur 40 yards. Tu le disais, lui, en l'occurrence, à l'inverse de Bryce Young, il est sorti de sa zone de confort pour être testé à l'occasion de ce combine. Et il n'a pas spécialement déçu, loin de là.
Ah ben, il a été excellent. Il a été même pour le coup, on peut le dire, assez historique. Puisque il n'y a que trois quarterbacks depuis 1987, donc depuis que c'est évalué, qui ont fait un 10 sur 10. Est-ce que tu peux me dire les deux autres?
Qu'est-ce que ça peut être 10 sur 10 sur les ateliers réussis?
Sur la performance athlétique.
Griffin The Third, il n'y a pas dedans?
Non. Il y en a un, il est assez facile. Oh. Un monstre athlétique, Carolina, Cam Newton. Ouais. Et deuxième, 1999. Minnesota Vikings.
Dante Culpepper.
Dante Culpepper, exactement. Ce sont les trois joueurs qui ont fait 10 sur 10 dans leur histoire, entre guillemets. Écoute, c'est juste absolument phénoménal ce qu'il a réussi. C'est-à-dire que j'ai tweeté il y a quelques jours que s'il devait y avoir un joueur qui finirait numéro 1 à la place de Young ou Stroud, ça serait Richardson. Je pense que ça peut très clairement arriver là aujourd'hui parce qu'un tel phénomène athlétique dans une ligue qui est une copycat ligue, hein, on sait, donc qui va vouloir reproduire des Jalen Hurts, des Lamar Jackson, des choses comme ça. Tu vois, je me dis un Station qui est en 4.
C'est celui auquel je pensais le plus, tout à fait, ouais.
Qui a la possibilité de monter en 1 si jamais. Bon, il suffit que Station, ils disent non, mais attendez, moi, je vais faire avec Richardson ce que j'ai fait avec Hurts. Et les doutes au niveau du lancer, etc., vous verrez qu'ils vont être, ils vont disparaître. Et honnêtement, ça ne me surprendrait pas qu'ils montent en 1 pour reprendre.
Mais c'est ça, et même ce que j'allais dire, c'est. Alors, on n'est pas là pour prospecter et s'avancer encore un petit peu plus. Il y a beaucoup d'échéances qui vont arriver dans les prochains jours, à commencer par la Free Agency notamment. Mais cette prestation de Richardson, elle peut aussi rassurer, par exemple, si en effet les Colts sont intéressés, ce que je pense également vrai, tout comme toi, le fait de se dire, bah finalement, est-ce qu'on a besoin de vendre la maison pour monter en numéro 1 pour potentiellement aller récupérer Bryce Young, alors que potentiellement, en restant en 4, voire peut-être en échangeant moins et en s'assurant le troisième spot, par exemple, on peut quand même récupérer le joueur qui nous intéresse.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que il y a un monde, notamment parce que bon, voilà, on va pas en faire des masses avec ça, mais Bryce Young est petit, c'est-à-dire que à part Kyler Murray, on n'a pas souvent vu des joueurs de ce calibre-là. Bah, à partir de ce moment-là, il peut y avoir des mecs qui disent, ben bah, moi, je suis pas totalement convaincu par Bryce Young et je préfère en effet laisser glisser. Que quelqu'un d'autre prenne le risque. Et moi, je vais tenter avec Richardson, qui, en plus, on le rappelle, est très, très jeune. Donc,
Oui.
potentiel de développement assez élevé, puisqu'on fait difficilement plus jeune qu'Anthony Richardson.
Tout à fait. 22 ans en mai prochain, joueur qui était seulement redshirt sophomore. Donc, pour rappeler, donc c'est un joueur qui a 2 années de football, mais 3 ans au sein de l'université, ce qui lui permet d'être éligible vu qu'il a réalisé ses 3 années, on va dire, académiques. Donc ça, c'est pour la petite précision concernant Richardson. Ton avis sur Will Levis? Alors, Anthony Richardson, je n'ai pas dit, parce que du coup, on reste beaucoup sur le 40 yards. Les passes profondes aussi, c'est peut-être un de ceux qui a marqué le plus de points, en l'occurrence, hein, parce que en termes de puissance de bras, très clairement, il n'y a pas beaucoup de soucis à ce niveau-là.
Bah, il y avait lui et Dorian Thompson Robinson, quoi, qui sont les deux qui ont eu vraiment des puissances de lancer, entre guillemets, assez incroyables. Mais oui, non, mais il y a rien à dire. Enfin, c'est vraiment un joueur aujourd'hui. Bah, comme je dis, je pense qu'il y a des gens qui vont prendre le risque parce que c'est vrai que c'est ultra attrayant. C'est ultra attrayant.
La fameuse marge de progression, ça vous avez beaucoup l'entendre de toute façon au fil des semaines, et ouais, tu t'en parlais notamment par le biais de son âge, sera forcément quelque chose à mettre à son actif, à son crédit. Will Levis, donc je reviens sur lui, joueur très atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on va revenir peut-être sur une anecdote assez dingue qu'on a entendue à son sujet ce week-end, hein. Mais en tout cas, si on reste sur l'aspect terrain, alors moi ce qui m'a marqué, alors, ça ne gomme pas en soi les inquiétudes qu'on peut avoir sur sa gestion de la pression, qui malheureusement ont été exacerbées, on va dire, par la très mauvaise ligne offensive qu'il avait du côté de Kentucky en 2022. Mais on l'a quand même vu un joueur assez vraiment plein d'assurance au cours de ce week-end du côté d'Indianapolis, avec quand même relativement peu de fausses notes à son actif.
Oui, et puis il y a une chose qui est importante que nous, on ne voit pas forcément, mais les échos sont toujours importants par rapport à ça. Que ce soit Richardson ou Levis, les échos sont que, en gros, les deux ont été très bons en interview. Et on sait à quel point il y a l'aspect terrain, mais il y a aussi l'aspect interview qui peut parfois faire monter ou descendre un joueur. Bon, bah là, on a vraiment deux joueurs qui ont conquis les gens. Et oui, bah, Levis, on connaît ses qualités. On sait que son bras est bon, ses capacités de lancer sont bonnes. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça. Après, comme tu le dis, ce n'est pas là où les principales interrogations sont. C'est plutôt dans la gestion de la pression, dans la gestion de la poche. Et ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas vraiment au combine. Donc, honnêtement, moi, je ressors du combine, j'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose sur Lévis, en bien ou en mal, en fait.
Ouais. Assez étonné qu'il n'ait pas fait de 40 yards. Encore une fois, c'est pas un prérequis, mais c'est un joueur qui peut avoir une certaine mobilité. Je
Oui, il
suis
n'est pas
pas
lent
sûr
en
que ça leur a
plus. Hein.
empêché de pas. Je suis pas sûr que ça leur ait forcément péjoré plus que ça sur le fait de montrer qu'il avait un panel un peu plus établi. C'est le cas aussi de CJ Stroud, hein, dont on a vu que sa mobilité n'avait pas forcément été hyper exploitée durant son cursus universitaire. C'est des joueurs, voilà, qui, bon, encore une fois, il y a le Pro Day, bien entendu, ça, on le rappelle, hein, sera surveillé pour ces deux joueurs-là, respectivement, à Ohio State et à Kentucky. Mais oui, c'est peut-être une corde supplémentaire à leur arc qu'ils auraient pu éventuellement mettre en évidence, et voilà, bon. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, sur le peu qu'ils ont montré, sur l'échantillon, en tout cas, qu'ils ont voulu montrer, il y a rien eu de rédhibitoire,
Et
donc à
donc,
voir
est-ce qu'on
éventuellement dans
peut
les autres.
parler quand même
Oui.
de ce
Ah oui,
petit
parle-nous de cette
insider?
anecdote, du coup. Alors voilà. Ce qui inquiète donc du côté de Will Levis, c'est sa gestion de la pression, mais c'est aussi le hors-terrain qui devient de plus en plus préoccupant, notamment d'un point de vue alimentaire.
Alors, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que Will Levis, c'était le jeune homme qui met de la mayonnaise dans son café et qui mange des bananes avec la peau. C'était ça l'autre truc, si je me rappelle bien. Donc, autant dire que c'est un mec qui a clairement un problème hein, dans sa
c'est
tête.
C'est si mauvais les bananes avec la peau? C'est une question très naïve que je pose.
Je sais pas, là, il faudrait...
On fera une émission thématique pré-draft.
Si tu veux tout savoir, je suis allergique aux bananes, donc je ne testerai pas.
Ah, oui, c'est ça.
Non, c'est vrai.
On fera un live de Twitch, tu changeras de couleur.
Exactement. Mais, et donc, on a appris qu'en fait, apparemment, ce qui inquiète un peu les équipes, c'est que dans la préparation, on va dire, culinaire, il y a beaucoup de choses qui sont à base de lait, et que Will Levis aurait non pas une intolérance au lactose ou quoi, mais une peur panique du lait et de tout ce qui s'y rapporte. Donc, je ne sais pas comment.
Ah oui, parce qu'on a eu quand même des rapports pour franciser un peu le. Voilà, des sources ont quand même évoqué le fait qu'il avait hurlé à la vue du lait.
Et la vue du lait, c'est... apparemment, même les dérivés, c'est-à-dire même les yaourts, etc., tout ça.
Le lait en poudre, il supporte pas.
Il a une peur panique. Alors j'espère que c'est pas lui qui donnera les biberons à ses futurs enfants parce que ça va lui faire bizarre. Mais je sais pas quoi dire. Tu vois, il y a des moments.
C'est très perturbant parce que est-ce que les défenseurs vont pas s'en servir? C'est ça aussi qu'il faut savoir dans l'optique du.
Tu penses qu'il y a un mec au Super Bowl qui va se mettre un petit badge en forme de bouteille de lait?
Par exemple. Hein?
Ouais, ça serait beau.
Tu vois, à la fin d'une action, tu vois, à l'air de rien, tu prends un petit truc de lait dans ta poche, tu en jettes à la gueule. Enfin, je sais pas comment tu peux.
Non, mais vraiment, là, non, mais on est quand même dans un monde absolument incroyable, quoi. Enfin, ce qui se passe est absolument incroyable.
Cet homme devient une coqueluche malgré lui, hein. C'est fou.
Ah, bah là, quand même, il nous en avait fait des trucs. Mais là, je dois avouer que, waouh.
Bon, on va pas faire trop long, en tout cas, sur les quarterbacks. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, Levis et Richardson ont rassuré dans le fait qu'ils pouvaient potentiellement être draftés, sans m'en douter pas, dans le top 15, voire dans le top 10, très clairement. Mais par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que voilà, s'il y a vraiment des équipes qui ont envie de faire all-in sur les quarterbacks, rien ne paraît farfelu au sortir de ce week-end de voir des équipes monter relativement haut pour potentiellement être sûr de les récupérer. Et du coup, alors la question c'était de savoir, parce que généralement on voyait plus souvent Levis devant Richardson. Pour toi, à l'issue de ce week-end, Richardson peut être passé devant Levis?
Oui.
Ok. Si je te pose la question, c'est que je suis globalement d'accord avec ça. Autre question, peut-être, on va pas faire trop long sur les quarterbacks, parce qu'il y a d'autres postes à évoquer, mais on sait que c'est une position qui est forcément très très suivie et très intéressante. Si on prend un peu les outsiders. Celui qui a marqué le plus de points, ce serait qui? Stetson Bennett?
Oui, Stetson Bennett qui a fait vraiment un excellent combine. Il a été très mobile, très bon dans ses lancers. Enfin, vraiment.
Déjà, apparemment, il était sobre.
Déjà.
Vu l'historique récent, malheureusement, ouais, c'est.
Et ça, déjà, c'est bien. Non, et puis, comment dirais-je? Celui qui m'a beaucoup déçu, par contre, c'est Tanner McKee. Que j'ai trouvé totalement perdu, en fait. J'ai trouvé que sa performance était un peu cata. Il était hors de position, séancé, était pas assuré, enfin, c'était pas du tout le joueur rassurant qu'on nous a vendu.
Petite main, Tanner McKee, au plus, hein. Je crois qu'il a rejoint le club des Jay Kenner et des Clayton Tune, de ce que j'ai vu.
Et un club qui est présidé par Kenny Pickett, c'est ça?
Oui, tout à fait, ouais. Alors voilà, c'est pas rédhibitoire pour un premier tour. Bon, c'est pas faire injure à Tanner McKee de considérer qu'il n'était pas vraiment dans ce lot-là, mais oui, pour rejoindre ce que tu disais, oui, malheureusement, il y a et les impondérables et les prestations sur le terrain qui n'ont pas forcément joué en sa faveur.
Non, c'est clair.
Très bien. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Équateur-Bac. On va enchaîner en parlant justement des cibles. Des QB, les receveurs, où là, en l'occurrence, il y a pas mal de profondeur. Il y a peut-être pas de de stars absolues, de joueurs en tout cas sur lesquels on est vraiment totalement frappadingue, on dira, dans l'optique de cette draft. On va peut-être parler malgré tout des joueurs qui ont marqué donc des points précieux et ceux qui ont pas mal déçu. On va peut-être commencer par la déception globale. Alors c'est une déception relative à mon sens parce que ça n'a pas été forcément un combine complètement raté de sa part. Mais c'est clairement pas celui où il a rassuré globalement en termes de contenu, où il a vraiment marqué des points d'un point de vue athlétique. C'est Keishon Boutte, receveur des LSU, qu'on n'a clairement pas toujours vu à son avantage au cours de ce week-end.
Oui, mais en fait, le problème Boutte, il est assez large, hein, parce que c'est un joueur qui était très mis en avant la saison dernière, donc 2021. Et en fait, en 2022, est-ce que ces systèmes qui correspondaient pas le changement d'entraîneur, ou en tout cas, sur le terrain, il avait pas envie pendant une majeure partie de la saison. Et là, on a l'impression qu'il avait toujours pas envie au combine, en fait. Donc, je serais très curieux de voir ce que pensent les franchises de l'interview qu'ils ont eue avec lui. Parce que, honnêtement, ça donnait vraiment l'impression d'un mec qui se demandait ce qu'il foutait là et qui avait pas envie. Et c'est vraiment, moi, je jugerais pas dans le sens, c'est pas genre, il est pas athlétique ou quoi, parce qu'en vrai, on sait qu'il est athlétique. Mais genre, juste, ce mec avait pas envie d'être là, quoi.
Ouais. Mais de toute façon, c'est plus le hors terrain qui interroge le concernant.
Oui, mais ça aide pas, tu vois.
Ah non, mais clairement.
Parce qu'il y en a qui ont dit oui, c'est l'environnement de LSU cette année avec le changement de coach avec un quarterback qui est pas un excellent lanceur. Très bien. Mais là, il est pas dans l'environnement LSU. Et il a pas non plus.
Encore une fois, le but du jeu, c'est pas de trop extrapoler ou de surinterpréter des choses qui se sont passées. Mais on a vu qu'il y a un début de saison, enfin, d'un point de vue de terrain, il y a un début de saison où il a pas envie et ça se ressent. Il y a une deuxième partie de saison où il a envie et ça coïncide avec la bonne période de LSU. Et en fin de saison, il y a cet imbroglio avec je m'en vais, je reste, finalement, non, je m'en vais. Donc, en fait, on a l'impression que du jour au lendemain, c'est un joueur qui peut être totalement différent, quoi. Je vais pas exagérer, on n'est pas dans de la schizophrénie, mais on a l'impression que d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, on ne sait pas quel visage de Keishon Boutte on va avoir. Donc c'est ça qui est peut-être un peu perturbant dans l'optique d'une draft. Il y a un talent qui est, encore une fois, on parle d'un joueur qui est potentiellement peut-être deuxième tour. Il y a des bons receveurs qui sortent au deuxième tour, hein. L'année dernière, le joueur sur lequel on pouvait se frotter les mains si on le récupère au deuxième tour, c'était George Pickens. Après, la différence, c'est que George Pickens, qui avait des problèmes de caractère aussi, était aussi descendu au deuxième tour de par l'aspect blessure. Là, c'est pas le cas de Keishon Boutte. A priori, il n'y a pas de problèmes médicaux plus prononcés que ça. Mais pourtant, on a ce côté, cet aspect avec des grosses guillemets psychologiques, où on se dit qu'on ne sait pas si c'est un joueur qui va être pleinement investi, qui va vraiment avoir ne serait-ce que l'exigence d'un joueur NFL, quoi. Est-ce qu'il va réussir à franchir ce palier? C'est pas ce qui saute clairement aux yeux au sortir de ce week-end-là.
Non, je suis d'accord avec ça. C'est un vrai problème et les interviews vont être décisives pour lui.
On va parler du joueur qui a marqué des points. En l'occurrence, un joueur qui était tout comme lui, tout comme Boutte d'ailleurs, annoncé au premier tour l'année dernière. Alors, ça fluctue un peu moins. Lui, pour le coup, il y a des problèmes de blessure qui interrogent. Et c'est aussi en ça que le combine devait être extrêmement important. Pour lui, avec cette blessure aux ischios qui lui a pourri toute sa saison 2022, c'est Jackson Smith-Njigba. Alors, on en parlait en off. On a toujours du mal à déterminer le receveur numéro 1 de cette QV. Hein, ça aussi beaucoup, Addison, Johnston, pourquoi pas Flowers, hein, qu'on n'a pas vu, qui a montré de très bonnes choses également lors de ce week-end d'Indianapolis. Pour toi, JSN, comme l'appellent les jeunes, ce serait le principal receveur de cette QV.
Oui. Et encore plus après le combine, en fait. C'est-à-dire que Jackson Smith-Njigba, donc c'était le receveur numéro 1 après sa saison 2021 incroyable, où il était quand même le joueur le plus prolifique d'un trio avec Garrett Wilson et Chris Olave. Alors, est-ce que c'était le meilleur? C'est un débat qu'on a eu avant le podcast.
Oui. En tout cas, c'était celui qui était le plus libre aussi.
Non, mais c'était le plus prolifique. Oui. Là, c'est mathématique.
On est d'accord.
Et donc, oui, il a été blessé globalement toute la saison. On a vu un Addison qui était plus petit que prévu et beaucoup moins vif que prévu. Johnston, mais par définition,
Oui,
on l'a pas vu.
d'ailleurs, je me permets juste, ça fait écho à ça, c'est que Addison, à qui on reproche justement ce côté un petit peu trop frêle, là, ça fait peut-être partie des joueurs qui ont peut-être pas forcément marqué des points en faisant l'impasse sur certains ateliers.
Exactement. Et à l'inverse, Smith Njigba, qu'on sait déjà être quand même un bon coureur de tracé, bah, sur les ateliers d'agilité comme le trois cônes, il a été incroyable.
Tout à
Et
fait.
vraiment,
Meilleur
il
temps de
a.
ceux qui ont participé, ouais.
Et même meilleur temps depuis des années, je crois, au poste de receveur. Donc, c'est. Non, il y a quand même une facilité à bouger dans les petits espaces.
Rappelle-nous juste brièvement le free cone, en quoi ça consiste pour ceux qui ne sont pas familiers forcément avec l'atelier. C'est vraiment du changement de direction pur et dur.
Oui, c'est ça, en fait. Si vous voulez, c'est donc il y a trois, comment on dit en français, trois plots
Oui, trois plots, ouais.
qui sont disposés. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver en effet à bouger d'avant en arrière, de droite à gauche, de montrer en fait tous les changements de direction que tu peux faire, puisqu'en fait, tu as d'abord un virage, puis tu retournes sur toi-même, puis tu repars. Et on t'indique la direction dans laquelle tu dois finir. Donc, c'est quand même très important, on va dire, pour les 3 premières secondes d'une action de football, quoi. Le moment où tu vas créer une séparation, en fait, avec ton vis-à-vis.
Surtout pour un joueur qui est pressenti pour démarrer, en tout cas à minima, dans le slot.
Dans le slot, en plus. Donc, vraiment, moi, j'ai aimé sa prestation. Il n'a pas fait de 40 yards, mais en soi, je ne suis pas sûr que ce soit le plus important. Il en fera un au Pro Day, et puis voilà. Mais globalement, j'ai trouvé qu'il a été très bon, très vif. Et oui, je pense que c'est le receveur numéro 1 de cette classe. Et mon autre coup de cœur, mais vous pourrez le lire parce qu'on a aussi fait des articles écrits sur les vainqueurs et les perdants du Combine, c'est Andrei Yosivas de Princeton, qui est en train de monter et qui est, à mon avis, une pépite qui va finir au second tour.
Oh, d'accord.
Et oui.
Les
Je
mots sont
prends des
lâchés.
risques.
Non, non, mais t'as raison. Non, mais il y a, mine de rien, cette classe de receveurs, je le disais, hein, elle est profonde. Il n'y aura peut-être pas autant de premiers tours, on ne sera peut-être pas aussi bien habitué, on dira, que ces dernières années. Mais de toute façon, il y a énormément de bonnes affaires qui vont pouvoir être faites sur la position. Alors, je parlais de Zay Flowers, qui sera peut-être plus un premier tour, mais c'est vrai qu'il y a quelques autres profils que j'ai trouvé assez intéressants. Michael Wilson, on l'avait déjà souligné, le receveur de Stanford, qui malheureusement a été beaucoup blessé, mais qui a quasiment fait un sans-faute, je trouve, au niveau des nombreux ateliers auxquels il a participé. Marvin Mims, qui a montré une très bonne agilité également sur les ateliers auxquels il a participé, le receveur d'Oklahoma. Donc ça, ce sera quelque chose de forcément apprécié de la part des scouts. Et puis, on a un joueur un chouïa plus grand, mais voilà, en effet, peut-être qu'au niveau des changements de direction, c'est peut-être pas aussi fluide que ça, mais moi, je continue d'être assez bluffé par un Xavier Hutchinson. J'ai du mal à voir ce qui fait mal, en fait. Voilà. Il fait peut-être pas tout bien, mais j'ai du mal à voir voilà, des choses où on se dit, ouais, c'est vraiment pas terrible. Et j'ai l'impression que ça peut être un vrai aspirateur à ballon à l'échelon supérieur, un vrai pur joueur de possession, quoi.
Ouais, il y a une certaine profondeur, hein. C'est vrai que ça manque de stars, on est à peu près tous d'accord,
J'ai pas parlé de
mais
Charlie Jones qui a fait 4,43 également
ouais,
sur
voilà,
le
mais
40 et qui a été très bon sur les ateliers aussi. Ouais.
il y a 10-15 joueurs qui sont très intéressants. Il n'y aura pas de stars, il n'y aura pas de receveurs dans le top 10, surprise, mais il y a, on va dire, dans le deuxième, troisième, quatrième tour, il va y avoir pas mal de profils intéressants.
Tout à fait. Et beaucoup de joueurs qui peuvent prendre la vitesse, donc ça va être assez intéressant. Donc, comme on le disait, sur le même modèle que Jackson Smith. Njigba, on reviendra sur les cibles et sur les tight ends tout à l'heure pour terminer cette émission. On va s'intéresser notamment aux linemen offensifs, pour le coup, pour cette troisième partie, parce qu'il y a des questions qui sont posées. Alors, on a un top 3 assez établi. Alors, on va faire un focus notamment sur les tackles. Juste d'ailleurs, un petit ressenti très rapide, parce que c'est vrai que les linemen étaient tous regroupés ensemble, hein, que ce soit plutôt des profils extérieurs ou intérieurs. Si on regarde sur l'intérieur, assez brièvement, est-ce que tu as des enseignements particuliers que tu ressors des prestations des uns et des autres?
J'ai été très déçu, alors là encore, c'est parti des noms difficilement prononçables, de Olusegun Oluwatimi,
À tes souhaits, oui.
qui est donc le centre de Michigan,
Tout
qui
à fait.
d'ailleurs, je crois, avait été élu meilleur centre de la saison ou quelque chose comme ça, que j'ai trouvé un peu en dedans, comme John Michael Schmidt aussi.
Oui, alors Schmidt beaucoup plus que Oluwatimi, parce que Oluwatimi, on sait qu'il y a un profil très, alors rigide, c'est peut-être exagéré comme terme, mais oui, on sait que c'est un joueur peut-être, on s'attendait forcément à un peu moins de fluidité de sa part. Schmidt, je suis resté un peu plus sur ma fin. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus deuxième que premier tour.
Oui, et je pense qu'il peut, il y a un moment, si la hype continue à prendre, Luke Whipler peut à un moment passer dans tout ce petit monde.
Oui.
Je ne tomberai pas de ma chaise.
C'est toujours la même chose. Je pense que c'est plus l'aspect physique qui peut éventuellement jouer en sa défaveur. Mais l'agilité est indéniable de sa part. Moi, je prêche pour ma paroisse, hein, parce que du coup, on m'a raillé là-dessus. Mais gros combine de Steve Avi, là, je trouve.
Ouais. Bah, il sera pas pour tout le monde, ça, c'est sûr. Mais beau combine. Et puis, je finirai évidemment par John Gaines. qui a fini meilleur score athlétique des gardes.
Oui, c'est vrai. Et encore, heureusement, Antonio Maffi n'était pas là, parce que sinon, Antonio Maffi aurait fait un énorme combine également, le garde de UCLA.
Meilleur score athlétique, ça ne veut pas dire évidemment qu'il sera particulièrement.
Non, en tout cas, c'est vrai qu'il a marqué de bons points. Il a confirmé en tout cas pourquoi on l'avait invité au combine, parce que c'était un joueur qui valait le coup d'œil.
Ouais, exactement.
Voilà, très clairement. On en vient au tackle, puisque c'est les principales vedettes hein, de la ligne offensive, on va pas se mentir. On a un top 3 assez établi, qui s'est peut-être d'ailleurs resserré pas mal hein, à l'issue de ce week-end, parce que dans mon esprit, Broderick Jones a marqué beaucoup plus de points intéressants que Skoronski et surtout Johnson. Je sais pas trop ce que t'en penses là-dessus, avant peut-être qu'on parle du reste du panier.
Très en retrait.
Ouais.
J'ai trouvé Skoronski très en retrait, pas aussi vif que d'habitude. Je me suis demandé à un moment s'il était un peu malade parce que j'ai vraiment trouvé en dedans. Ça n'enlève pas que c'est mon tackle numéro un, mais j'ai trouvé en dedans. J'attends de voir les prodés. Paris Johnson, on a vu qu'il a les dimensions qu'il a, hein, c'est-à-dire qu'il a été construit dans un laboratoire, c'est très bien. Mais là où je te rejoins, c'est que si on parle des performances sur le terrain, c'est Broderick Jones qui a été le plus impressionnant. Broderick Jones, qui a été mesuré plus grand que les stats de son université. Et alors ça n'arrive jamais. D'habitude, ils sont toujours plus petits que ce qu'annonce l'université.
Ils font 1m90 au lieu de 2m26.
Non, mais attends, il fait quand même 6'5", 3/8 au lieu de 6'4".
Il est grand.
Il est grand.
J'aurais du mal à dire le contraire, il est grand.
Broderick Jones, pour le coup, j'ai trouvé propre, rapide, bien sur ses appuis. Vraiment, moi, j'adore. Jones, j'adore.
Oui, non, c'est ça. Encore une fois, de toute façon, les points d'interrogation, notamment concernant Jones et Johnson, c'est plus leur apprentissage de la position de tackle. Mais on voit que globalement, ouais, Broderick Jones, c'est quand même un profil assez complet. Et là, non seulement il y a le physique, il y a le côté main violente. C'est ce qui a sauté clairement aux yeux sur les différents ateliers auxquels il a participé. Et oui, cette vélocité globale, c'est vraiment un joueur qui peut marquer des points. Je pense qu'il était un top 15 quasi sûr. Frôler le top 10. Hein. Attention, en fonction des préférences, c'est pas dit qu'il s'invite pas comme le premier ou le deuxième tackle du plateau en fonction des préférences des uns et des autres. On en vient à la principale question qui nous intéresse, parce que le top 3, globalement, il paraît assez acquis, même si c'est plus l'ordre aujourd'hui qui interroge. Qui derrière, puisqu'en l'occurrence, on avait souvent tendance à parler d'Anton Harrison, le tackle d'Oklahoma. On a également eu, au sortir du Senior Bowl, cette petite hype concernant Dawan Jones, hein, l'imposant tackle droit d'Ohio State. Et il y a deux profils également qui, à mon sens, ont quand même marqué beaucoup de points ce week-end. Je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est Darnell Wright, le tackle de Tennessee d'un côté, et c'est Blake Freeland, le tackle de Brigham Young de l'autre. Du coup, si on prend ces quatre noms, globalement, est-ce qu'il y en a qui t'ont plus particulièrement sauté aux yeux et qui, dans le même élan, peuvent s'installer comme le quatrième tackle du plateau?
Écoute, moi, je vais rester, entre guillemets, fidèle à mon premier amour. C'est Blake Freeland. C'est Blake Freeland que j'avais dès le début de la saison, qui a connu une saison en dents de scie, hein. On va pas se mentir, ça a pas été toujours extraordinaire, mais il a bien maîtrisé, on va dire, son après-saison. Et il est encore un peu trop maigre, entre guillemets, si on peut dire ça dans tackle. Il manque peut-être encore un peu de masse. Voilà,
on va lui répéter en face.
C'est ça, je suis d'accord. Mais par contre, il a prouvé ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il est rapide, qu'il est explosif, qu'il est agile. Non, vraiment, moi, je trouve que Blake Freeland, il a tout pour réussir et il peut jouer à gauche. Là où Darnell Wright, que j'aime beaucoup aussi, semble quand même, et on l'a vu lors des expérimentations qui ont eu lieu à Tennessee, il semble quand même destiné à jouer à droite.
Et Dawan Jones aussi, hein, parce qu'on ne fera pas croire que Dawan Jones a un profil pour jouer à gauche.
Ah bah Dawan Jones, c'est notre cher ami des Patriots, comment il s'appelle ?
Trent Brown. Alors il est beaucoup comparé, je trouve, et la comparaison est intéressante parce qu'en effet, Trent Brown avait ce côté très très brut au sortir de, je crois que c'était Florida où il était, Trent Brown à l'époque. J'ai vu certains qui tiquaient un peu parce qu'ils s'attendaient justement à un combine un peu similaire à Mekhi Becton, parce que c'est vrai que les dimensions sont pas si lointaines que ça également. C'est sûr qu'athlétiquement, ça n'a pas été aussi bluffant que Mekhi Becton. Après, je pense que Dewan Jones, globalement, voilà, pour le gabarit du bonhomme, surtout dans la NFL moderne et surtout quand on voit les linemen offensifs modernes, c'est quand même un joueur dont j'ai trouvé que l'agilité était pas déconnante. Je sais pas si c'est le quatrième tackle du plateau, je sais pas si c'est une fin de premier tour. Pour moi, c'est à minima un début de deuxième. Mais oui, je trouve que vraiment, ne serait-ce que pour le profil extrêmement particulier qu'il a, je pense pas qu'il ait perdu de points très clairement au sortir de ce week-end. Et juste, je te laisse enchaîner là-dessus, mais pour rebondir sur ce que disait sur Monsieur Terre Libre, donc Monsieur Freeland. En l'occurrence, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pour la première fois, on a vu une certaine régularité. Tu parlais de sa saison à BYU, même à l'occasion du Senior Bowl, et d'ailleurs, on avait été un peu, pas sceptiques, mais on était un peu restés sur notre faim par rapport à ça, parce qu'on avait vu des bonnes prestations, notamment en match, mais des ateliers où il était beaucoup en difficulté.
Exactement.
Et là, pour le coup, on a eu un week-end où, quels que soient les ateliers auxquels il a participé, globalement, il y a eu un bon rendu, on va dire, global, une bonne impression d'ensemble. Donc, c'est vrai que c'est là-dessus, encore une fois, où on se dit que, voilà, c'est un joueur dont on note qu'il y a une marge de progression, mais qui reste extrêmement attractive et dont on voit, là, pour le coup, où on parlait d'autres juste avant, que la régularité peut quand même être de mise pour lui à l'échelle supérieure.
Non, mais de toute façon, tous ces joueurs-là ont leur place en fin de premier tour, première moitié du second. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mauvais choix. Je pense que c'est des joueurs qui ont tous leur qualité. Et on a pu avoir un moment un doute sur cette classe de tackle. Bah finalement, ça reste quand même une classe très solide. Il y a pas la star top 5 ou podium ou machin, mais ça reste quand même une grosse classe de top 50.
En fait, si tu veux. On rappelle toujours quelque chose, parce que c'est vrai que c'est pas forcément, on a tendance un peu à oublier la chose, mais pour rappeler que la position de tackle, c'est toujours la position facile, entre guillemets, de la fin du premier tour. On se dit qu'il y a moins de chances de se tromper. Et c'est vrai que là aussi, mine de rien, quand on regarde, on se dit, il y a les trois noms qu'on a cités. Et moi, je me dis, j'ai pas de mal à me dire que sur les quatre dont on parle là, même avec un choix en moins dans le premier tour, parce qu'on rappelle que les Miami Dolphins n'auront pas de premier tour et qu'on a donc que, entre guillemets, 31 choix dans le premier tour, il y en aura peut-être trois autres qui peuvent s'inviter en fin de premier tour. Et moins un Darnell Wright, encore une fois, même s'il y a eu certaines périodes un peu compliquées, notamment lors des matchs du Senior Bowl, on a encore vu que d'un point de vue qualité athlétique, mobilité latérale, etc., etc., il n'y a pas grand-chose à redire. Blake Freeland, tu te dis, c'est un joueur dont la cote ne cesse de grimper et ça peut être intéressant. Anton Harrison, j'ai un peu plus de doutes sur ce week-end-là, c'était assez brut.
Moi aussi.
C'est vrai que si on prend une comparaison un peu d'il y a quelques années, ça fait un peu penser à un autre ancien Sooner, Orlando Brown. Alors on voit qu'il faut pas présager grand chose, mais c'est vrai que là encore une fois, en fait, c'est plus une question de relativiser par rapport aux autres prestations plutôt que de dire que il était peut-être pas tôt ou quoi que ce soit, mais c'est juste que l'impression d'ensemble et la comparaison par rapport à d'autres prospects attendus dans les mêmes eaux peut laisser un peu sur notre fin. Mais voilà, ça va être à surveiller. Mais en tout cas, ton quatrième tackle aujourd'hui serait plutôt Blake Freeland, du coup, si je suis ton raisonnement.
Ouais.
Ok. Moi, j'avoue que pourtant, je ne suis pas un fan du bonhomme au départ. Darnell Wright, quand même, je sens bien quatrième tackle du lot. Un bon premier tour assuré.
Mais après, encore une fois, tu vois, ça dépend qui pique. Parce que
Oui.
si on prend les Eagles en 30, imaginons, on sait à quel point Howie aime prendre des linemen. Il va falloir remplacer Lane Johnson d'ici 2 ans. Tu vois, s'il a le choix entre Freeland et Wright, je pense qu'il va choisir Wright, en fait, qui correspond plus au profil en se disant, il va apprendre 1 an, 2 ans derrière Lane Johnson et ensuite il sera au niveau. Tandis qu'une équipe comme les Steelers ou autres vont peut-être avoir tendance à vouloir plutôt prendre un Freeland, tu vois. Donc ça dépendra aussi.
C'est intéressant que tu parles des Eagles, hein, parce qu'on a vu que Jess Stotland était très impliqué dans les ateliers des linemen offensifs. Donc, voilà. Ce qui n'est pas totalement déconnant, parce que un des meilleurs coachs de ligne offensive cette saison. Voilà. Mais à mon avis, il a dû avoir un œil assez appuyé sur certains prospects, en l'occurrence, au cours de ces sessions. On enchaîne à présent sur les joueurs qui ont marqué des points et qui ont déçu sur la position de running back. Peut-être. Commençons. Alors attends, tout que je revérifie ça. Qu'est-ce qu'on avait du coup au niveau du poste de running back? Peut-être le joueur qui nous a. Alors la déception. Peut-être commencer par ça. C'est vrai que j'avais plutôt rebondi sur Kenny McIntosh, running back de Georgia. Alors non pas que Kenny McIntosh était dans le top 5 de la position, mais on voyait que c'était un nom quand même qui montait dans les différents boards, ne serait-ce que de par sa capacité à être un joueur intéressant en sortie de backfield. C'est sans doute un des running backs qui a les meilleures mains du plateau. Maintenant, c'est vrai que sa prestation en termes de vitesse et de rendu global, de fluidité de déplacement, tout simplement, a pas forcément sauté aux yeux, mon cher Victor.
Ben c'est ça en fait, on attendait un athlète entre guillemets au-dessus de la norme, sans pour autant voilà s'enflammer, mais on attendait quand même quelqu'un qui est dans le haut du panier, et finalement on est sorti de là, on a eu juste l'impression d'avoir un joueur moyen, la sorte de joueur échangeable que tu as une dizaine de fois dans chaque draft, où il va être un peu correct en coureur, un peu correct en receveur et pas beaucoup plus. J'avais un peu d'espoir sur lui et clairement, en fait, je me suis dit, mais s'il n'a pas été tant que ça utilisé, c'est peut-être pas tellement la rotation à Georgia, mais peut-être aussi parce qu'il n'était pas si performant que ça, en fait.
Oui, c'est ça, parce
Là, il y a
que.
un manque d'explosivité qui fait peur.
Parce que clairement, c'est un joueur, tu le dis, qui est quand même supposé avoir du jus, hein, qui n'a pas été titulaire lors des premières années du côté de Georgia, qui était en effet au sein d'un comité l'année dernière, même si c'était le joueur qui était le plus utilisé au sein de ce comité. Voilà. Dans la NFL moderne, oui, on a l'impression que c'est un joueur qui, en effet, alors, sera peut-être pas utilisé sur 3 tentatives, puis sera sûrement un gadget très précieux, notamment sur les troisièmes. Mais c'est vrai que d'un point de vue global, voilà, on a du mal à l'imaginer en running back numéro 1 et hors d'une équipe justement qui jouerait avec un comité assez fourni. Donc voilà, la solution de facilité serait peut-être de mettre dans un comité de coureurs à Baltimore, hein, pour retrouver Todd Monken, son ancien coordinateur offensif. Mais en tout cas, là, clairement, au sortir de ce combine, voilà, le côté vraiment vitesse et qualité athlétique hors norme, ça passe sauter aux yeux tout de suite. C'est pas forcément le cas d'Evon Etienne, running back de Texas A&M, qui a souvent tendance à passer un peu sous les radars. On dira, c'est clairement pas le joueur le plus sexy, le plus glamour de cette draft. Hein. Ça fait partie des running back de Texas A&M ces dernières années où on se dit bon, d'ailleurs c'était Isaiah Spiller, cette année c'est Devon Achane. Mais en l'occurrence, là, lui a marqué des gros points et a été très complet à l'issue de ce week-end. Ça lui assure un statut assez sûr dans le top 5 du poste de running back, selon toi?
Ça peut, c'est toujours pareil, running back, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Tu as une dizaine de joueurs qui peuvent être dans le top 5. Achane, par exemple, il y a des supporters, hein, je me souviens de, je pense, c'est Marino de Draft Network qui l'a running back numéro 2, avant même le combine. Pour le coup, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il est le joueur le plus rapide de cette classe. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Et paradoxalement, moi en tout cas, des vidéos que j'ai vues, j'ai trouvé que pour un joueur de sa taille et de son poids, il essayait de faire le boulot en tant que bloqueur. C'est évidemment pas incroyable, hein, puisque il a, quand t'as pas le physique, t'as pas le physique. Mais c'est un joueur volontaire, c'est un joueur qui travaille pour l'équipe, et c'est quand même un joueur de gros jeu. Donc voilà, c'est vraiment, je sais pas ce que ça deviendra, mais c'est le genre de gadget où tu te dis, forcément, ça donne envie, parce qu'en termes de spectacle, ça peut être très très bon.
Ouais, meilleur temps, enfin, joueur le plus rapide, en tout cas, du 40 yards sur la position de running back, devant Jahmyr Gibbs, au passage, avec un temps de 4.32. Ce qui va jouer contre lui, c'est qu'en effet, du côté de Texas A&M, encore une fois, on l'a peut-être pas utilisé dans un panel très très varié, hein. Faut dire que du côté d'A&M, l'année dernière, l'attaque, c'était quasi exclusivement Aitchen sur du jeu au sol, donc c'était pas forcément, ça lui a pas forcément permis de se...
C'était putride, l'attaque de A&M.
Oui, c'est ça. Voilà, je cherchais à minimiser un petit peu, mais j'ai utilisé les bons termes. Après, voilà, il y a des dimensions physiques qui vont jouer contre lui. Très clairement, voilà, c'est pas le running back le plus petit de ce plateau, hein. On n'est pas sur du Keaton Mitchell d'East Carolina ou bien entendu Deuce Vaughn de Kansas State, mais bon, on est à 5-9, donc c'est relativement petit pour la position. Je pense qu'on doit être à 1m73 dans ces eaux-là, je vais pas me tromper, entre 1,70 et 1,73. Et puis, petite main, petit bras, ça aide pas, hein. Dans une NFL moderne, on va te demander de jouer à la réception. Même s'il a pas, c'était clairement pas déconnant là-dedans. Encore une fois, faut pas isoler les dimensions prises de manière brute et le rendement au niveau des ateliers sur le terrain. Et c'est forcément quelque chose qui va rentrer dans l'esprit des observateurs à l'issue de ce week-end.
C'est sûr. Hein, quand vous voyez qu'un Travon Walker finit numéro 1 de draft, ça prouve que les dimensions physiques sont importantes.
Bon, on va enchaîner, du coup, on va terminer sur cette partie offensive avec les tight ends. C'était pas forcément la position la plus glamour, hein, ça l'est rarement chaque année. Surtout que franchement, sur le troisième jour du combine, on a un peu senti que les tight ends, on savait pas trop si on allait éteindre la lumière avant qu'ils arrivent. Hein, parce que en toute fin de session, après 6 heures d'atelier. Voilà.
Les mecs, on n'avait rien à faire. Ils étaient là, ah, il reste encore eux. Oh ouais, mince. Faites vite, hein, parce que nous, on va rentrer à l'hôtel.
Faut passer la serpillière, dépêchez-vous un peu.
Même les commentateurs, c'était en mode, oui, bon, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'ateliers. Ouais, ouais, bien sûr.
Enfin, bref. Mais c'était très intéressant, parce qu'en l'occurrence, bah, les tight ends, voilà, encore une fois, pour être aussi efficace sur le bloc, sur la réception, enfin voilà, je vous apprends rien de particulier. Et du coup, ce qui était intéressant à voir, c'est notamment le haut du panier au niveau du poste du tight end, parce que là encore, il y a quand même un solide groupe qui se dégage, 4 noms notamment qui retiennent tout particulièrement l'attention. Alors tout le monde n'a pas pu participer. Dalton Kincaid, il me semble qu'il a des petits problèmes de blessure.
Rien de rédhibitoire,
à moyen long terme. Donc a priori, ça devrait être bon pour le pro day de Utah, mais en l'occurrence, il n'était pas présent. Luke Musgrave a fait juste une apparition sur le 40 yards. Alors sur d'autres ateliers un peu plus techniques, hein, il a fait le saut à pieds joints, le saut vertical. Enfin, ouais, il a fait quelque chose. D'ailleurs, il s'en est pas trop mal sorti.
Il a fait, on va dire, les ateliers d'évaluation pour prouver qu'il était un athlète incroyable, mais ce qu'on savait déjà.
Oui.
Mais après, on attendait un peu plus de le voir sur un terrain, en fait.
Voilà. Et on l'a pas vu dans les ateliers sur terrain, mais globalement, tout ce qui était atelier, notamment, tout ce qui était dimension physique, globalement, il l'a fait et bien fait. Donc, voilà. On parle d'un joueur qui, potentiellement, malgré ses nombreuses blessures, peut être sélectionné au premier tour. Donc, ça aura peut-être pas été déconnant de le voir peut-être en faire un peu plus. Mais là encore, voilà. C'est peut-être une stratégie un petit peu calculée comme Bryce Young ou comme d'autres. Du coup, il y avait deux joueurs principalement qu'on a suivi de près sur cette classe de tight end, en tout cas qu'on a le plus vu. C'est donc Michael Mayer de Notre-Dame et Darnell Washington de Georgia. Alors, je sais que Darnell Washington, c'est un peu ta coqueluche, ta poule aux œufs d'or, je pense qu'on peut le dire. Et je crois, alors, Michael Mayer, je crois que tu en as parlé notamment pour le mettre dans les joueurs qui ont perdu quelques points. Alors, je ne sais pas quel était ton ressenti par rapport à lui vis-à-vis de Kincaid. Est-ce que pour toi, cette prestation le fait passer deuxième tight end du plateau?
Pas forcément. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de mocks où Michael Mayer est, on va dire, dans le top 20.
Ouais.
Moi, je trouve qu'il est bon partout.
Mais il n'a pas de vitesse. Ça, en tout cas, il l'a confirmé.
Mais il est excellent un peu nulle part et il a un déficit de vitesse qui fait que je suis désolé, mais moi, Michael Mayer, j'ai envie de prendre en fin de premier tour éventuellement, mais surtout au deuxième. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai envie de prendre de tight end dans l'ensemble de la classe. Il n'y en a pas un que j'ai envie de prendre au premier tour. Il y en a beaucoup que j'ai envie de prendre au deuxième, pour plein de raisons différentes. Mm-hmm. Mais je trouve que la hype, entre guillemets, Mayer, est un peu élevée par rapport au niveau réel du joueur.
Ben, en fait, c'est surtout que quand on regarde, par exemple, aux principaux tight end, on va dire, de la ligue, un George Kittle, et c'est vrai que pour ceux qui l'ont encore tendance à l'oublier, c'était 4,52, je crois qu'ils ont dit sur le, quand il l'a fait. Travis Kelce, c'est 4,61. Mark Andrews, c'est 4,67. Michael Mayer, c'est 4,74. Donc, la vitesse ne fait pas tout. Mais c'est vrai qu'encore une fois, dans la NFL moderne, avec notamment des linebackers, des safety qui peuvent être très présents sur beaucoup de zones du terrain, etc. Enfin, des linemen qui peuvent décrocher à tout moment, qui peuvent être extrêmement mobiles, très fluides, comme on l'a vu et comme on l'évoquait lors du précédent podcast. Si on a un tight end peut-être un peu brut, entre guillemets, dans ce domaine-là, ça peut être un peu problématique. En tout cas, ça peut limiter l'impact qu'il y a. Alors, il y aura toujours cette comparaison avec Gronkowski, encore une fois. Hein, c'est pas ce qui a empêché Gronkowski, malgré son statut de deuxième tour, d'avoir une carrière en NFL et un futur statut de Hall of Famer. Mais c'est vrai que, voilà, même Gronkowski, c'était 4,68 au 40e.
Oui, oui, bah, je pense que globalement, même des Dallas Goedert ou des choses comme ça, je trouve que il est pas, il est clairement lent. Il est clairement lent par rapport à ce à quoi on a été habitué. Donc, bon, je crois que c'était 4,43, je crois, Dallas Goedert. Mais le fait est que Mayer, moi, je le trouve bon, très bon. Mm-hmm. Mais je ne trouve pas phénoménal, quoi. Je trouve que c'est le très bon tight end numéro 2 ou tight end numéro 1 titulaire, pas plus, quoi.
Est-ce que ce n'est pas le tight end parfait pour mettre justement dans une équipe avec un système à deux tight ends?
Oui, non mais voilà.
Je ne sais pas si c'est l'exemple que tu allais donner. Je pense à un joueur comme Hunter Henry, qui n'était pas très très loin dans les scores. C'est pareil, il a fait 4,68 sur le 40 yards. Et où tu vois que oui, il a quand même assez souvent été utilisé dans des systèmes à deux tight ends dans sa carrière, quoi. Parce qu'il n'avait peut-être pas forcément l'agilité, mais qu'il avait les bonnes mains.
Oui, oui. Et puis, dans la nouvelle franchise de Lamar Jackson, on verra laquelle c'est, avoir deux tight ends, c'est bien, vu qu'il n'utilise pas les receveurs. Non, je suis méchant avec lui. C'est le système qui était construit comme ça aussi. Mais non, je suis assez d'accord que Mayer, ça peut être dans un système à deux tight ends, oui. Mais j'ai vu des comparaisons avec Gronk, avec Goedert, j'ai même vu une comparaison avec Hockenson et tout. Je trouve qu'on est très loin de ça. Quand même. Mais bon,
voilà. Après, Hockenson, est-ce que tu considères qu'il a fait une carrière monstrueuse? Pour l'instant, j'en suis pas sûr.
Non, mais par contre, il était monstrueux en
bloc.
En période pré-draft et en universitaire, quoi.
Oui, forcément, bah, c'est ce qui fait que t'es pas sélectionné numéro 7, je crois, de mémoire, en tight end.
Ouais,
si
7-8, quelque chose comme ça.
Si t'as pas prouvé avant, on est d'accord. Très bien. Un petit mot rapide sur Darnell Washington, du coup. Est-ce que lui aussi bouleverse la hiérarchie? Et notamment, est-ce qu'il peut se disputer la place avec Luke Musgrave? Alors, j'ai entendu sur NFL Network, hein, je pense qu'on va pas hésiter à le dire. On est toujours très dithyrambique sur les analyses de Daniel Jeremiah, donc je respecte le travail et l'analyse, mais c'est vrai que ça contribue et on sait que ça fait partie de ces consultants qui écoutent de près ce qui se passe au niveau des franchises. Darnell Washington, il y a toujours cette hype premier tour. À mon sens, il fait pas des mauvais ateliers, il fait pas un mauvais 40 yards non plus, si on part par là. Bon, je suis toujours un peu estomaqué quand je vois qu'on montre des actions, des highlights. Des meilleurs moments où on se dit, vous avez vu, il est capable de faire ça. Moi, mon problème avec Darnell Washington, c'est pas la question de savoir ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire, c'est de savoir à quel, on va dire, la question de l'endurance, de la régularité, de la constance. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, on le voit trop souvent disparaître dans des matchs. Mais voilà, on est toujours dans ce concept. Alors, je suis désolé de la comparaison parce que du coup, pour moi, je la partageais totalement l'année dernière. On est sur ce concept Jordan Davis, ce côté très américain de la démesure Aguiche. Et du coup, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut s'attendre à un dernier Washington au premier tour, ou est-ce que vraiment c'est trop farfelu à l'heure actuelle?
Alors, personnellement, je ne prendrai pas au premier tour. Mm-hmm. Mais là où tu as raison, c'est que Jeremiah de NFL.com et Brugler de Diathétique, qui sont les deux connus pour suivre un peu vraiment ce que disait GM, tu vois, pour vraiment retranscrire, entre guillemets, ce que disait GM, les deux le mettent top 25, quoi. Donc, je me dis que ça va peut-être finir par arriver, mais en gros, je vois pas intérêt. Enfin, oui, c'est un frigidaire avec des pattes. Ça, c'est rigolo. C'est assez rigolo à regarder. Mais enfin, en attendant, il a fait 450 yards cette année. Il est incapable de créer de la séparation. Il a un arbre des tracés qui est ultra limité. Il a des mains qui sont moyennes. En gros, il s'est bloqué et il ressemble à un frigidaire. OK. Je vais dire honnêtement, je suis pas fan du tout.
Franchement, s'il finit au premier tour, je trouverais ça fascinant de voir qu'un Darnell Washington est sélectionné au premier tour et qu'un DK Metcalf, qui avait quand même beaucoup plus de références et dont on a souvent caricaturé le fait d'être juste une armoire à glace, qui avait terminé à la fin du deuxième tour pour la carrière qu'on sait. Voilà, c'est qu'en fait on est impressionné devant des trucs immenses, je francisais le terme, mais on est impressionné par des dimensions athlétiques absolument dingues et parfois de manière un peu trop irrationnelle. On n'y est pas, hein, mais c'est vrai que la question aujourd'hui elle mérite de se poser.
Non, mais c'est encore une fois, c'est bien d'être imposant, mais il faut savoir utiliser ton corps, quoi. Tout le monde n'est pas Gronk, tout le monde ne
c'est un peu le Dimarvion Overshawn de l'attaque.
Ouais, si tu veux. Non, mais j'aime bien la comparaison avec Jordan Davis. C'est pas parce qu'il a été pris aux Eagles que je vais changer d'avis, hein. J'étais un anti-Jordan
Davis. Non, mais moi, Jordan Davis, aussi... j'étais le premier à dire que je trouvais que c'était pas un bon procès le fait qu'on dise c'est un obstacle qui joue pas tous les snaps, etc., etc. Parce que même s'il y avait en effet ces dimensions absolument plus grandes que la vie, comme on dit outre-Atlantique, malgré tout, il produisait. Moi, ce qui m'embête avec Darnell Washington, c'est que, ouais, le mec est un Golgoth, mais comme tu dis, la production est très relative. Tu devrais t'attendre à des chiffres vraiment. Enfin, encore une fois, on prend les comparatifs avec Gronk, etc. Gronk était un cauchemar en termes de match-up. C'est pas mon idée avec Darnell Washington.
Et puis surtout que en soi, il y en avait des opportunités pour les tight ends, puisqu'on a vu qu'il y a un autre tight end qui produisait beaucoup d'autres
côtés. C'était le tight end 2 de son équipe, quoi. C'était pas la cible.
Alors que Dieu sait que j'adore Brock Bowers, mais c'est pas un monstre athlétique. C'est pas la définition même d'un monstre athlétique, tu vois. Non. Et pourtant, il arrivait à faire de la séparation. Donc, Washington, le problème, c'est que pour bouger toute cette masse qui est uniquement musculaire, je n'en doute pas, mais il faut du temps. Et du coup, l'action a commencé depuis 5 secondes, qu'il n'a pas parcouru 4 yards. Donc, en soi, une fois que la machine est lancée, elle avance, mais je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement explosif.
Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce combine et ses prospects. Offensif, question traditionnelle, monsieur Roulier, du coup, est-ce qu'il y a un atelier offensivement qui vous a le plus intéressé, intrigué?
C'est quand même le 3 cônes, moi, je trouve, qui est le plus intéressant. Après, au niveau des linemen, moi, j'aime bien quand t'as le mec qui lui dit va devant, va derrière, va à droite, va à gauche. T'as toujours un ou deux prospects où tu sens que le concept de droite et gauche, pour eux, c'est compliqué, tu vois. Et du coup, ça, c'est assez rigolo aussi. Ce qui était moins rigolo, c'est qu'on en a vu quand même, je sais pas si c'était à pelouse, mais on en a vu quand même.
Ah oui, il y a beaucoup de linemen offensifs qui sont blessés, ouais, tout à fait.
Ouais, on en a.
Alors, il y a Wanya Morris qui se blesse sur le 40 yards et il y a Andrew Boris qui se fait une blessure sur le, justement, sur ce fameux atelier dont tu parles, l'atelier de mobilité, ouais.
Donc, ça, c'était moins marrant, mais c'est vrai que cet atelier-là, je le trouve assez rigolo.
Oui, pareil. Oui. J'aime bien le concept de l'étoile de mer pour commencer. J'aime beaucoup.
Oui. Et les mecs, tu vois, ils sont contents. Là, ils font l'étoile de mer et hop, tu te relèves.
Allez, secoue-toi.
Non, j'aime bien.
D'accord. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas. Merci Victor d'avoir été en ma compagnie. Et vous continuerez de retrouver les différents podcasts draft dans quelques jours. On reviendra sur les positions, notamment mon cher Victor, parce que je crois que tu suivras ça d'assez près. On parlera ligne.
Alors effectivement, c'est-à-dire que d'abord avec Jean-Michel, nous allons vous parler de d'offensive tackle et de lineman défensif intérieur, puisque vous aviez déjà, enfin vous, en fait c'est Jean-Michel et Tonio de Souvenir qui avaient déjà fait les edge, et tu vas revenir derrière avec Nitti pour faire les linebackers, donc ce qu'on appelle le Jack Campbell podcast, et les receveurs.
Exactement. Et
je
on vous rappelle.
Lâcher, hein. Je vais être sourd.
Non, non, il faut.
Tu alors, sais que je vais être sourd.
Et alors, certains l'auront sans doute vu au moment où le podcast aura été publié. Les premières fiches draft sont publiées. Donc, on rappelle le petit changement de format cette saison. 50 fiches en 50 jours pour vous présenter les principaux prospects de cette année jusqu'au 27 avril. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'écrit et au niveau des fiches draft. Et on peut déjà le dire, Victor, il y aura le grand retour également des pastilles. Alors, est-ce qu'il y a une première date déjà prévue pour les premières pastilles?
Eh bien oui, 32 jours avant la draft, donc la première pastille sera un dimanche, ce sera le 26 mars.
Et ouais, on travaille le dimanche.
Eh bien oui, on est comme ça. Donc du 26 mars au 26 avril, il y aura des pastilles. C'est vrai qu'on a un tout petit peu moins d'écrits, tu disais un tout petit peu moins de fiches que les années d'avant, parce qu'aussi, on a beaucoup plus de podcasts, donc on essaye de diversifier un peu les manières pour vous présenter les joueurs.
C'est ça. Et on s'adapte aussi à une manière qui semble globalement vous convenir, parce qu'on a vu que voilà, vous étiez beaucoup plus friand de tout ce qui était contenu audio que écrit. Donc voilà, on essaye de, on va dire, d'ajuster un petit peu, de trouver peut-être un juste milieu par rapport à l'écrit qui était majoritaire ces dernières années. Donc on va essayer de faire un peu plus de, enfin, on le fait déjà, hein, beaucoup plus de podcasts audio, potentiellement de live Twitch, notamment dans l'optique du mois d'avril. Hein, ça, ce sera à surveiller, mais en tout cas, on va essayer de travailler en ce sens. Donc voilà, mais restez bien connectés en tout cas sur touchdownactu.com, sur les différentes applications, les différents réseaux sociaux, je vais y arriver. Je les ai pas tous en tête, notamment TD Actu sur Twitter pour ça, entre autres, et sur les plateformes, je vous disais, de streaming ou de téléchargement. Merci encore Victor d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve très vite pour la suite de l'actualité de cette draft NFL 2023. Salut à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.